I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Sur ce podcast, je te propose un truc. Tant que je suis dans tes oreilles, tu fais quelque chose de bien pour toi. Tu peux ranger ta chambre ou ton appart, et si t'es pas chez toi, tu peux te redresser. Ça va te faire du bien. Vas-y, redresse-toi. T'inquiète, c'est pas bizarre, personne ne sait que je te parle. Je m'appelle Elio, c'est moi ton hôte, et je te souhaite un excellent épisode. Salut, j'espère que tu vas bien et que t'es prêt, parce qu'aujourd'hui on va s'attaquer à une règle brutale qui m'a beaucoup fait réfléchir, qui m'a fait me poser beaucoup de questions vis-à-vis de mes amitiés. Je te reparlerai de tout ça à la fin de l'épisode. Troisième règle du livre 12 règles pour une vie du docteur Jordan B. Peterson. Fais-toi des amis parmi les gens qui veulent le meilleur pour toi. Un épisode par semaine, une règle par semaine, on va normalement terminer début de l'année prochaine en fait. Et je suis content d'avoir pu lire tous vos retours sur l'épisode précédent, ça m'a fait énormément plaisir, ça m'a motivé à vous préparer cet épisode correctement. Donc une fois de plus, si c'est des épisodes qui vous plaisent, continuez à mettre des coms parce que je lis absolument tout. Et juste, si tu genre, bref, sur si t'as deux minutes, si t'as pas vu l'épisode de la semaine passée, va juste sur l'épisode de la semaine passée et va lire les commentaires. Mec, imagine tu crées du contenu, tu lis des commentaires comme ça, comment est-ce que tu te sens? Bah mec, je me sens bien et motivé pour te faire un bête épisode. La règle du jour, elle traite du sujet de l'amitié. C'est un sujet sensible, extrêmement émotionnel, et si tu veux pouvoir en tirer quelque chose, il va falloir que tu l'écoutes autant que possible d'une oreille rationnelle. Je sais que ça va pas être facile, je vais faire de mon mieux pour te faire comprendre en quoi c'est une règle bienveillante, même si elle peut paraître très 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 dure sur plusieurs points. Pendant toute la première partie du chapitre, Peterson nous parle de son enfance. Il est né et a grandi dans une ville qui s'appelle Fairview, qui est située dans le nord de l'Alberta, au Canada. À Fairview, tu te fais chier. Tu te fais chier en été, mais tu te fais encore plus chier en hiver. C'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément de choses à faire. Surtout à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas la télé. Donc, rapidement, tu te rendais compte que ce qui comptait énormément pour toi, c'était tes potes. Tu avais besoin de t'entourer de personnes avec lesquelles tu pouvais te marrer, tu pouvais bien t'entendre, parce qu'autrement, en fait, tu mourrais juste d'ennui. Alors, je vais malheureusement pas revenir sur toute cette première partie du chapitre, même si c'est un des passages du livre que j'ai préféré, étant donné que c'est extrêmement bien narré. Surtout que, pour ma part, j'ai écouté pour la première fois le livre en audiobook, donc quand t'as ça dans les oreilles, t'es plongé dans ces hivers glaciaux. Glaciaux, il me semble. Enfin, en vrai, tu revis le truc, tu vois. Il te raconte comment tous les chats perdaient le haut de leurs oreilles à cause ça gelait, tu vois, et en final, ça tombait. Il raconte comme une fois, son chat, il s'est endormi dehors, et ensuite, il a fait tellement froid, tellement vite, qu'il s'est fait congeler, en fait, et ils ont dû découper, en fait, la glace pour ramener le chat à la maison, réchauffer le truc, et ensuite détacher les morceaux de glace auprès du feu. Donc, le chat s'en est sorti. Il racontait aussi comme tous les chats du quartier, ils avaient un peu l'habitude de se réfugier dans les voitures juste après qu'elles se soient parquées parce que les moteurs étaient le système de ventilation en fait des moteurs était hyper chaud, mais du coup quand la voiture redémarrait en fait ça faisait exploser le chat. Il te parle de plein de trucs, je vais pas revenir sur tout ça, mais c'est super, enfin bref, moi j'ai adoré ce morceau. Mais la conclusion du coup, c'est que tes amis comptent énormément pour toi, et il y a pas besoin d'être super plongé dans la psychologie ou le développement personnel pour savoir que le comportement des personnes qui t'entourent finit d'une manière ou d'une autre par déteindre sur toi, et que du coup c'est important, on le sait tous, on a entendu, les 5 personnes qui t'entourent au final sont les personnes qui vont avoir la plus grosse influence sur ta vie, et ainsi de suite. Et il t'explique qu'à partir de là, c'est important de t'entourer de personnes qui visent vers le haut et qui veulent ton bien, et de t'éloigner des personnes qui visent vers le bas et qui ne veulent pas ton bien. Mais souvent les gens en fait vont s'associer à des personnes qui visent vers le bas et vont penser qu'ils le font par loyauté. Il dit qu'en réalité, quand tu fais quelque chose, c'est important de supposer que tu es en train de le faire, non pas parce que tu es quelqu'un de bien, mais parce qu'il s'agit de l'option la plus simple. Et donc pourquoi est-ce que tu t'associes avec des gens qui visent vers le bas? Ce serait l'option la plus simple. Dans un premier temps, parce que c'est plus simple. C'est-à-dire que quand la personne à côté de toi a une vie qui se pète la gueule sur littéralement tous les plans, bah tu vas inévitablement te sentir plutôt bien vis-à-vis de la tienne. Tu vas te dire « Ah, mais en fait, je suis pas tant que ça en train de foirer ma vie. » Et souvent, on est tenté de se mettre à côté de ce genre de personnes justement pour pas être renvoyé à nos propres échecs. C'est difficile d'avoir un pote qui est en train de gérer sa vie, surtout s'il le fait bien, parce que du coup, tu te dis « Bah, en fait, ça se trouve, je devrais faire plus. » Tu te compares à lui et tu te dis « Bah, il y a un problème avec moi. » Et t'as pas envie de le faire pour cette raison-là. Et il pointe aussi, il met aussi le doigt sur le fait que c'est souvent des relations qui sont réciproques. C'est-à-dire que c'est un contrat implicite, personne n'en parle, avec ton groupe de potes, vous en parlez pas, mais tout le monde sait que La relation que vous avez est basée sur le fait que personne ne va viser vers le haut. Et moi, j'ai eu des relations amicales comme ça. Entre mes 17 et mes 21 ans, j'avais un groupe de potes avec lesquels tous les soirs, on se retrouvait dans un local, un grand local, tu vois, on était entre 5 et parfois même 20, la plupart du temps une dizaine. Mais il y avait vraiment un noyau de mecs qui étaient là abonnés tous les soirs et j'en faisais partie. Et on passait nos soirées en fait à boire des bières, fumer de la weed, jouer à la console. Et on chantait, on faisait du rap. On le faisait pas, tu vois, parce qu'on avait un projet pro, tu vois, on n'essayait pas de marketer le truc pour faire un... pour développer un label ou... C'est vraiment juste, on créait, tu vois, on créait des fois de la musique, des fois on créait des trucs... Enfin, j'étais vidéo d'ailleurs de cette époque. J'étais bien, tu vois, je me sentais hyper bien. Je vais pas dire que je me sentais mal. Pourquoi je me sentais bien dans ces moments? Parce que quand on était ensemble, à aucun moment, personne n'allait parler de faire du sport, de se développer. Tous ces sujets-là étaient tabous. Parce que on voulait pas faire en sorte que les autres se sentent mal, tu vois. Si on avait amené des victoires ou des succès, on aurait provoqué chez les autres non pas un sentiment de bonheur et de bienveillance, mais un peu une espèce de gêne, tu vois, en mode le mec entend que toi t'es en train de gérer dans ta vie et il se dit ah fais chier en fait, moi je suis pas en train de gérer dans ma vie et tu le fais se sentir mal et t'avais pas envie de le faire se sentir mal, donc tu parlais pas des succès, des choses qui géraient bien pour toi. D'ailleurs c'est marrant parce qu'après avoir commencé à faire du sport, quand j'ai commencé à avoir des abdos, tu vois, quand j'ai commencé à être bien physiquement, quand j'allais à la plage avec des potes, ben, j'enlevais pas mon t-shirt, surtout s'il y avait une meuf dans le groupe. S'il y avait une meuf dans le groupe, je savais que moi si j'enlevais mon t-shirt, eux allaient se sentir mal vis-à-vis de ça. Et c'est chiant une amitié comme ça quelque part. Parce que tu vises pas vers le haut, eux ne visent pas vers le haut, en fait t'as ce contrat implicite, bref, c'est le truc dont ils parlent. Donc première raison pour laquelle t'es pas forcément en train de faire ça par loyauté, c'est peut-être parce que justement t'as un contrat avec ses amis et que t'as pas envie de rompre ce contrat. En fait, tu te condamnes toi et tu condamnes ton pote à rester en bas parce que c'est comme ça que vous fonctionnez. La deuxième raison pour laquelle peut-être t'es en train de t'associer avec des personnes qui visent vers le bas, c'est parce que ça peut être une manière pour toi d'éviter de te pencher sur tes propres problèmes, alors que t'en as. Ceci étant dit, c'est possible que tu sois fondamentalement une personne qui cherche à aider ton prochain. Et à ce moment-là, il y a quand même deux problèmes sur lesquels le psychologue tient à attirer ton attention. Le premier, c'est que c'est dangereux. On sait, parce qu'on a un tas d'études qui nous le suggèrent, que quand un manager a une équipe qui performe correctement, et il a certains éléments peut-être dans une autre équipe qui sont un peu en galère, tu vois, ils n'ont pas des bons résultats. Le manager se dit, bah vas-y, tu sais quoi, je vais prendre un élément de l'équipe qui est en train de galérer et je vais le mettre dans l'équipe qui est en train de perf. Comme ça, ça va motiver le mec et ensuite, bam, une fois qu'il sera meilleur, je pourrai le remettre dans l'autre équipe. Tu vois, l'idée, c'est de prendre une personne qui galère et de la mettre dans un groupe de personnes qui sont en train de perf. La personne qui arrive dans le nouveau groupe, elle reste cynique, elle arrive en retard au rendez-vous, elle respecte pas les délais. Et à ce moment-là, tous les autres membres du groupe, donc ceux qui étaient à la base en train de perf, ils ont un sentiment d'injustice. Ils sont là, ben, attends, je me casse le cul à taffer correctement, à me coucher chaque soir à une heure correcte, histoire de pouvoir être performant au taf. Je fais des heures sup s'il le faut. Je respecte les deadlines. Tout ça pour être payé pareil que ce mec qui en a rien à foutre, qui est tout le temps négatif, qui respecte aucune deadline. En fait, je dois tout le temps repasser sur son travail. Au final, qu'est-ce qui se passe? Tous les mecs qui perfent, ils se disent, bah, vas-y, tu sais quoi, j'arrête de perf. La recherche psychologique à ce niveau-là, elle est claire et nette. L'équipe, en soi, finit par moins performer. Pourquoi? Parce que viser vers le bas, c'est plus simple que de viser vers le haut. Pareil, quand tu prends une équipe de délinquants, un groupe de jeunes qui sont un peu en mode, c'est des délinquants, tu vois, c'est des mecs qui sont en délinquance. Quand tu les mélanges avec des jeunes qui sont moins délinquants, qui comparativement, tu vois, à eux, ben, sont des jeunes qui savent se tenir, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est la délinquance qui, au final, finit par se propager. C'est pas l'inverse. Du coup, quand toi, tu t'associes à une personne qui vise vers le bas, le plus probable, même si tu le fais, tu vois, dans une démarche genre purement, tu le fais pas pour éviter tes problèmes, tu le fais pas parce que c'est plus facile, parce qu'au final, t'as pas envie d'être envoyé à ton propre échec si tu t'associes avec une personne qui vise vers le haut, mais le plus probable, c'est que toi-même, tu finisses par couler avec lui. Et ça, c'est dangereux. Quand il s'agit de sauver quelqu'un qui est en train de se noyer, au sens propre du terme, t'apprends à approcher la personne avec un pied en avant. C'est-à-dire que t'arrives vers lui, tu vois, t'es maître nageur, le mec, il est... T'arrives vers lui et tu fais, mec, je suis là pour t'aider. Mais il va falloir que tu te calmes. Et si le type, il est en détresse, il est paniqué, et puis il vient, il commence à essayer de sauter sur toi, si tu veux, pour... Évidemment, tu vois, genre, c'est possible, quand tu paniques, tu peux le faire. Qu'est-ce que tu fais? Bam! Front kick dans la mâchoire. Faites pas ça, genre, tu le repousses avec le pied. Ça peut paraître cruel, mais qu'est-ce qui se passe si vous vous noyez tous les deux? Ça va pas arranger les choses. Maintenant, la deuxième raison pour laquelle, même si fondamentalement, t'as envie d'aider ton pote et que t'es pas en train de t'associer à lui parce que c'est plus simple ou pour éviter de bosser sur toi, c'est parce qu'en fait, tu sais pas vraiment comment l'aider. Carl Rogers, c'est un psychologue qui s'est beaucoup intéressé aux conditions de réussite d'une démarche thérapeutique. Et il expliquait que tu peux pas aider quelqu'un qui a pas envie de s'en sortir. Peterson, il revient là-dessus, il dit « Ouais, moi j'ai clairement vécu ça pendant mes années de pratique ». Je sais pas s'il continue à pratiquer la psychologie comme clinicien, il me semble que non. Mais il expliquait que quand il avait des mecs qui étaient envoyés, qui étaient forcés de suivre une thérapie suite à une décision de justice et qu'ils avaient pas envie de suivre cette thérapie, ça ne fonctionnait jamais. Et le truc, c'est que ton pote, il a pas forcément envie de s'en sortir. Peut-être que quand vous êtes dans une conversation les deux, il a envie de se tirer de là. Mais c'est genre 3 heures sur sa semaine. Tout le reste du temps, chaque matin quand il se lève, au final, il préfère aller jouer à l'ordi, fumer de la beuh, se branler dans son lit, plutôt que d'aller courir, de ranger sa chambre ou de payer ses factures avant de se prendre des frais de rappel, parce que c'est plus simple. Les gens n'ont pas forcément envie de s'en sortir. Et souvent, et c'est un truc qui peut être très difficile à entendre une fois de plus, souvent les gens, ce qu'ils veulent réellement, c'est continuer à rester dans une routine dans laquelle ils privilégient constamment le présent vis-à-vis du futur, mais ils veulent que les gens autour d'eux pensent qu'ils font tout ce qu'il faut pour s'en sortir. Très difficile d'entendre ça, tu vois, surtout si c'est toi-même qui es dans une situation en mode galère et que tu as tendance à demander de l'aide à des potes. Pas forcément le cas, mais c'est un pattern qu'on peut retrouver. Et si ça se trouve, le pote que t'es en train d'essayer d'aider, il est dans ce pattern-là. Il n'a pas envie de s'en sortir. C'est-à-dire que si toi, tu vas essayer de l'aider, d'une part, c'est dangereux pour toi, et d'autre part, c'est même pas certain que lui ait envie d'être aidé. Et du coup, ça se trouve, c'est complètement inefficace de passer du temps avec lui pour essayer de lui expliquer comment... Enfin, de partager quelque part des pistes de réflexion ou des solutions avec lui. Avec ça, il y a autre chose qui est délicat, c'est que tu peux être tenté d'aider ton pote parce que tu considères qu'il est victime de ce qui lui arrive. C'est-à-dire qu'il te raconte la merde qui lui est arrivée et tu fais « Mais ça, c'est vraiment pas de ta faute. Au fond, genre, t'es une victime, mec. » Tu le dis pas comme ça, tu vois, mais il te fait de la peine parce que t'as l'impression que c'est pas de sa faute. Et du coup, tu vas rentrer dans sa logique. Ou lui dit « Ouais, c'est de la faute de XY. » Tu fais « Mais c'est vrai que cette personne, c'est vraiment une mauvaise personne, mec. On parle pas comme ça quand on est entre potes, mais tu vois l'idée ?» Et le problème d'accepter un discours victimaire, c'est que tu retires le pouvoir de la personne dans le présent et dans le futur. Si tu décides qu'il a pas joué un rôle d'une manière ou d'une autre dans ce qui lui est arrivé, c'est-à-dire qu'en fait, dans sa vie, il lui arrive des trucs sans qu'il puisse rien y faire. Ce qui est vrai, d'une certaine mesure, tu vois, il nous arrive tous des trucs sans qu'on ne puisse ne rien y faire. Mais il se trouve quand même que, quand on cherche un petit peu, on arrive toujours à trouver un truc qu'on a fait ou qu'on n'a pas fait, qui a, d'une manière ou d'une autre, empiré la situation dans laquelle on se trouve. D'une part, tes parents décèdent, en plus de ça, t'es en guerre contre ton frère, pour l'héritage. Les parents qui décèdent, c'est pas de ta faute, mais le conflit avec ton frère, d'une manière ou d'une autre, t'en es responsable. C'est-à-dire qu'il y a des choses que t'as faites ou que tu n'as pas faites dans votre relation qui a contribué à créer cette situation. À nouveau, on est sur une règle qui vient d'un mec qui est considéré comme beaucoup comme étant la figure paternelle pure. On est sur de l'énergie masculine. Il t'arrive de la merde, trouve là où t'as été responsable, histoire que tu puisses éviter que cette situation se reproduise. Ça donne beaucoup d'espoir au final quand on ne te traite pas victime. Quand tu te vois comme une victime, tu dis en fait, ça veut dire que la vie en fait elle me chie dessus et je peux rien faire. Quand tu te dis, je me suis fait chier dessus, tu réfléchis, tu te dis en fait, qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai pas fait pour empirer cette situation, tu réussis à mettre ton doigt sur des trucs et tu comprends que la prochaine fois, tu vas pouvoir faire en sorte d'éviter le truc. Ou en tout cas de ne pas avoir un truc aussi horrible qui est en train de t'arriver. L'énergie féminine, elle va te dire, elle va être consciente de ta souffrance et elle va te consoler. L'amour inconditionnel de la mère. Et à nouveau, tu vois, t'as besoin des deux. T'as besoin d'énergie féminine histoire de pas te suicider parce que si déjà il t'arrive des catastrophes et les mecs ils viennent vers toi et ils te disent « Mec, en fait, tout ce qui t'arrive, c'est complètement... » À nouveau, tu vois, c'est pour ça, quand t'as un pote qui est dans la merde, qui traverse une tragédie, même si toi, dans ta tête, t'as une voix qui est en train de te dire que... En vrai, genre, il a participé, il a contribué à cette situation dans la merde dans laquelle il se trouve. Tu vas pas voir ton pote, faut avoir un certain tact, tu vois. Tu vas pas voir ton pote et tu lui dis, mec, en fait, ce qui t'arrive, c'est complètement de ta faute. Seulement quand tu réussis à sentir que c'est le moment adapté, le moment approprié, l'aider à faire en sorte que cette situation ne se reproduise pas. Tu vois, quand je te dis ne pas considérer ton pote comme une victime, ça veut pas dire, genre, détruis-le quand il lui arrive de la merde pour qu'il comprenne bien que c'était de sa faute et que, tu vois, parce que tu peux vraiment littéralement détruire une personne en te comportant de cette manière-là. Pour couronner le tout, et ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément développé dans le livre, mais du coup je vais apporter ma petite touche perso, parce qu'il faut bien des fois, quand tu passes 3 heures à discuter avec ton pote de ses problèmes, tu crées souvent l'illusion de progrès. C'est-à-dire que vous parlez pendant 3 heures du truc, vous dites « Ok, ouais, faudrait faire ci, faudrait faire ça, ouais, la vie, faut l'avoir comme ci, faut l'avoir comme ça. » Ensuite, voilà, vous éteignez votre pète, vous allez vous coucher, toi tu rentres chez toi, lui rentre chez lui, et en réalité, vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait d'important, vous n'avez pas fait de next step pour commencer à avancer. C'est-à-dire que toi, tu penses que t'es en train de l'aider, mais est-ce que vraiment c'est efficace? En fait, t'es juste en train de le faire se sentir bien. Il se dit, ah, c'est bon, j'ai bien travaillé sur mon avenir parce que j'ai eu une discussion de 3 heures avec ce mec et que là, je suis bien motivé. Le mec se couche, se réveille, même chose. Il allume son ordi, il se branle. C'est pas ce que tu veux. Tu sais pas forcément. En fait, c'est difficile de savoir comment aider quelqu'un. Quand j'étais à Barcelone et qu'il y avait des mecs, j'avais plein de potes qui vivaient à la rue, donc qui dormaient littéralement dehors. Et ces mecs, ils sont tous alcooliques. Enfin, ces mecs, ils sont tous alcooliques. Les mecs que je voyais à Barcelone étaient tous alcooliques. T'as envie de leur apporter de l'eau. T'as envie de leur apporter une pomme, tu vois. T'as envie de leur apporter des choses qui vont leur faire du bien. Mais si je m'étais pointé le premier jour et que je leur avais amené une bouteille d'eau, le mec, il se serait dit, putain, en fait, t'es complètement déconnecté de ma réalité. T'es un espèce de... T'es un mec dans la société, t'es intégré, je sais pas quoi. Moi, je suis un marginal. Tu crois que tu me donnes une leçon en me donnant une bouteille? Est-ce que vraiment tu vas l'aider en donnant une bouteille d'eau? Ou est-ce que peut-être ce serait mieux de lui donner une bière? C'est probable que la meilleure solution pour aider une personne qui est en train de viser vers le bas, c'est de t'éloigner d'elle et de l'inspirer via l'exemple. Quand ça fait des années que t'essayes d'aider quelqu'un, que tu partages de la sagesse avec lui et que le mec ne t'écoute pas, la meilleure chose que tu peux faire, c'est arrêter de parler, t'éloigner de lui, donner l'exemple, et le jour où il est prêt à t'entendre, là tu pourras lui parler. Parce qu'en fait, si tu lui répètes un truc que tu lui as déjà répété 150 fois quand il n'était pas prêt à l'écouter, au moment où il est prêt à t'écouter, ça n'aura plus le même impact. Tes mots, ils auront perdu leur puissance. Tu protèges la valeur de tes mots, tu t'éloignes, à nouveau. Peut-être que c'est la bonne solution. On n'est pas sur une invitation à dégager les gens de notre vie dès qu'ils traversent une période difficile, mais sur une invitation à se demander pourquoi est-ce qu'on le fait, est-ce que réellement on est capable de les aider, ou est-ce qu'on ne se mettrait pas nous-mêmes en danger dans une situation pareille? Quand une personne est réellement en train de viser vers le bas, on peut nous-mêmes couler avec cette personne. On peut faire peut-être ici un lien avec la règle précédente que je t'invite à aller regarder, qui se trouve dans la description et dans la playlist et sur la chaîne YouTube. Règle numéro 2, traite-toi comme une personne que t'es chargé d'aider. Est-ce que tu recommanderais cette amitié à ton père, à ta sœur, à ta mère, à ton frère? Maintenant, j'ai envie d'émettre un peu une réserve vis-à-vis de tout ça parce que, comme je vous l'ai dit au début d'épisode, c'est une règle qui personnellement a été très difficile à avaler. Je t'ai parlé de cette période de ma vie pendant laquelle je fumais de la beuh et j'avais beaucoup de ces potes, tu vois, qui visaient vers le bas. Et j'ai pas mis un terme à ces amitiés. C'est-à-dire que je considère pas que ces gens, c'est plus mes potes. Je considère juste que j'ai des potes en fait avec lesquels je sais que je peux pas rester en contact régulier. Je suis obligé quelque part de faire attention à la manière dont je m'entoure. Un pote, c'est quelqu'un qui vise avec toi vers le haut, qui partage ton bonheur, ta tristesse, et va pas tolérer ton cynisme ou ton esprit destructeur. Au contraire, il va t'encourager quand tu fais quelque chose de bien et te punir soigneusement quand tu fais de la merde. Bien sûr, c'est pas facile de rester à côté d'une personne comme ça parce que tu pourrais te sentir inférieur. Mais c'est pareil pour lui. Donc si ensemble, vous savez faire preuve d'humilité et de courage, vous allez cultiver une relation qui va vous faire évoluer tous les deux en tant qu'individu. Partage cette vidéo avec tes potes, mec. Je vais te lire, comme d'habitude, un petit passage du livre que j'ai sélectionné rien que pour toi. C'est un passage dans lequel Peterson s'adresse à un ami qui est en train de viser vers le bas. Alors, il s'adresse pas vraiment à un ami, tu vois, mais c'est comme ça qu'il... C'est les questions qui se poseraient vis-à-vis d'un ami qui vise vers le bas. Maybe your misery is the weapon you brandish in your hatred for those who rose upward while you waited and sank. Peut-être que ta misère est l'arme que tu brandis dans ta haine pour ceux qui s'élève vers le haut pendant que t'as attendu, et que t'as coulé. Maybe your misery is your attempt to prove the world's injustice. Peut-être que ta misère est une tentative de prouver l'injustice du monde. Instead of the evidence of your own sin. À la place de l'évidence de ton propre péché. L'évidence. Evidence. Comment tu dis évidence en français? Evidence. C'est à la place de... Mon Dieu, utiliser DeepL pour la traduction, ça m'a beaucoup aidé pendant mes études de droit en allemand. Tu utilises ta misère pour ça, en fait. Tu utilises ta misère pour prouver l'injustice du monde, pour éviter qu'on mette le doigt sur ton propre péché et sur ta volonté consciente de refuser de viser vers le haut. Maybe your willingness to suffer in failure is inexhaustible given what you use that suffering to prove. Success, that's the mystery. Le succès, c'est ça le mystère. Virtue, that's what's inexplicable. La vertu, voilà ce qui est inexplicable. Voilà, encore une fois, je vous remercie pour vos retours exceptionnels sur l'épisode de la semaine passée. Je vous invite à me lâcher un like, un commentaire pour cet épisode-là, ça m'encouragera beaucoup pour le suivant. Et je vous annonce que le prochain épisode, en fait, je vais le tourner dans un environnement tropical parce que je vais déménager, je vais quitter Budapest ce dimanche. Donc au moment où vous écouterez le podcast, moi je serai probablement dans l'avion en train de partir pour ma destination future. Je vous en dis pas plus, je vous laisserai découvrir l'environnement la semaine prochaine. Je vous recommande de vous abonner à cette chaîne, un épisode chaque dimanche. On va revoir la semaine prochaine du coup la règle 4. En anglais c'est « Compare yourself to who you were yesterday, not to who someone else is today ». Merci encore pour votre attention. Bisous.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.